patients 98, salle C.
Dans la salle d'attente.
Avec la docteure Christiane Laberge, médecin de famille. Merci d'être là, Christiane.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, c'était la journée anti-foie gras. Et aujourd'hui, nous poursuivons sur le sujet, mais il ne sera pas question de canard, mais bien de notre embonpoint généralisé.
De notre foie, de foie à nous.
Voilà,
qui est foie
de
gras.
Notre foie gras à nous. Tu voulais parler de ça. En fait, ça s'intitule, ça s'appelle la stéatose hépatique.
C'est ça.
C'est un mot un peu scientifique pour finalement dire que notre foie est trop gras et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose.
Ben, il y aurait jusqu'à 20 % de la population qui aurait un foie gras. Un foie gras léger, modéré ou sévèrement atteint. Ça dépend de la quantité que tu as emmagasinée et que tu as comme inflammation au niveau de ton foie. Et ce que ça fait, c'est que ça titille ton foie, ça l'inflamme et ça conduit, quand tu es trop inflammé, ça cicatrise, ça fait des cicatrices qui sont raides, un peu comme les gens qui ont des grandes brûlures. Là.
Oui.
À ce moment-là, la peau devient très raide et rétrécie. Et ça donne exactement la même image au niveau du foie et ça s'appelle une cirrhose. Mmh. Et actuellement, 12 % des greffes en Angleterre sont à cause de la cirrhose.
Mmh. Et pas forcément la cirrhose alcoolique.
Exactement.
C'est-à-dire dû à une consommation d'alcool excessive. Ça
exactement.
Peut être dû à d'autres choses. Là.
C'est ça.
Et de plus en plus, l'obésité, donc.
Bien, actuellement, c'est trop de calories qui rentrent, pas assez qui sortent.
Ouais.
Et ça doit s'emmagasiner, bien qu'il y a des gens qui, génétiquement, ont quand même tendance à accumuler des substances dans leur foie, comme par exemple les gens qui font de l'hémochromatose. Ce sont des gens qui, génétiquement, ont des problèmes d'augmentation de fer. Et savais-tu que le fer, c'est toxique en quantité exagérée?
Mm-hmm.
Donc, les gens qui disent « Ah, oh, moi, je me suis un peu fatigué, m'a prendre du fer. » Si vous ne faites pas d'anémie, ne prenez pas de supplément de fer. L'intoxication, un enfant qui avalerait les pilules de maman, là, c'est dangereux, le fer. Mm. Donc, les gens qui ont génétiquement le fer qui augmente dans leur foie, à ce moment-là, on fait les tests et on regarde pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions.
Quels sont les symptômes, quand même, là, de quelqu'un qui...
Pas grand-chose. La fatigue,
ben,
mal
la
au
bédaine,
cœur.
La bédaine, là.
Ben, non, mais l'accumulation de gras, c'est l'obésité, c'est l'embonpoint. C'est surtout le gras intra-abdominal qui va
c'est
être...
C'est ça, ce qu'on appelle la bédaine de bière.
C'est ce qu'on appelle la bédaine de bière. Et t'es pas obligé d'être gros pour avoir ça. Hein?
Non, juste un petit coussin.
Il y a des gens qui ils l'ont juste... Tu sais, au lieu de l'avoir dans les seins, dans les fesses, ils l'ont là. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus facile à habiller.
Et c'est drôle, à partir d'un certain âge, d'ailleurs, ton gras va plus là.
Absolument. Hein? C'est une question d'hormones. Et les hommes sont plus vulnérables que les femmes, bien sûr. Ça fait que ça va aussi avec ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Hein, les gens qui ont des triglycérides élevés, qui ont de l'hypertension, qui ont une intolérance aux glucides, donc une résistance à l'insuline, plus la stéatose, ça fait comme un ensemble, ça. Et c'est un ensemble assez toxique, merci, parce que effectivement, le foie, t'en as besoin pour digérer tes substances, t'en as besoin pour faire tes protéines, comme l'albumine, t'en as besoin pour faire tes anticoagulants. Tu vas fabriquer des coagulants qui ne seront pas... Alors, tu vas saigner si tu fais une cirrhose, si tu as de l'insuffisance hépatique. Et il y a aussi d'autres causes quand même pour heurter ton foie, pour faire une hépatite. Hein.
Ouais,
pour irriter ton foie, tu as autre chose que le gras. Tu as aussi des virus, hein? L'hépatite B, l'hépatite C, ça irrite ton foie et ça peut t'amener à la cirrhose et au cancer du foie. Tu as l'alcool, bien sûr, qui est un picossant tout le temps, un inflammatoire pour ton foie qui peut amener à la cirrhose. Et tu as aussi d'autres causes, comme je te disais, génétiques, etc. Mais souvent, c'est dans notre société, c'est 20 % qui est plus lié à l'obésité.
Ah, exactement. Bon, il y a eu tous ces cas aussi de sang contaminé à une certaine époque.
Ouais,
les scandales des Croix-Rouges internationales.
Oui, il était contaminé surtout au VIH. Alors,
oui,
ça a été surtout ça, mais l'hépatite B a passé aussi, mais on n'était plus... Écoute...
Mais je veux dire, tous ces gens qui ont reçu du mauvais sang, là, tu sais, les transfusés...
Oui, mais les transfusés, tu sais, ça fait longtemps qu'on connaît quand même la transfusion, l'incompatibilité,
ouais.
C'est pas là-dessus nécessairement, c'était de l'hépatite qui
ouais,
s'est transférée.
C'est ça, exactement.
Et c'est l'hépatite qui a causé
ouais.
l'inflammation chronique. Parce que tu sais qu'encore aujourd'hui, on va dévier un peu, mais aujourd'hui, il y a encore du monde qui se promène. Et, bon, quand on fait une hépatite B, c'est un virus qu'on contracte.
Ouais.
Qu'on le contracte sexuellement, qu'on le contracte avec les injectables, les transfusions ou n'importe quoi. Maintenant, par transfusion, tu peux plus. Mais si tu es porteur d'un virus de l'hépatite B, tu peux avoir 90 % de guérison spontanée. Mais le 10 % il se promène dans la population.
Ah ouais.
Donc, ces 10 % de personnes-là ne savent souvent pas qu'ils ont contracté.
Mm.
À moins qu'ils donnent du sang Croix-Rouge puis qu'on dise « Ah! Monsieur,
oui.
vous ne pouvez
ouais,
plus! » Puis là, tu dis « Bien, pourquoi? » Puis là, on va voir. Puis tu as déjà de l'hépatite, c'est-à-dire des signes d'inflammation à ton foie. Et à ce moment-là, là, on va pas réagir. Ou l'hépatite C, ouais, qui, elle, est encore plus vicieuse parce qu'elle donne 50 % de porteurs sains, de telle sorte que ça continue de faire sa destruction sans que tu t'en rendes compte. Puis à un moment donné, tu es fatigué, tu as du sang d'incelle, tu as du sang un peu partout, tu te sens pas bien. Puis tu consultes, puis on fait les tests, on fait les échographies, puis on fait les scans, puis on fait « ouch ».
Ah, ouais.
Vous êtes, et ce qu'on et la, a, et on n'a pas de
a,
traitement.
Et l'hépatite A, c'est celle qu'on
l'hépatite
risque de…
L'hépatite A, c'est la gastroentérite qui guérit en général, sauf si j'ai une stéatose sévère et que j'attrape une hépatite A qui est un équivalent de gastroentérite en termes de symptômes avec une jaunisse, bien, souvent, je ne serai pas capable de la surmonter. Donc, elle va décompenser mon foie. Mmh. Si, par exemple, je baf, ça ne sert à rien de faire le traitement, c'est-à-dire la perte de poids de 5 à 10 % l'exercice qui va te permettre de dégraisser un peu ton foie, mais il n'y a pas de médicament miracle, on s'entend. Tu ne dégraisses pas chimiquement un foie, là. Donc, les gens qui vont dire, c'est pas grave, ça, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, si t'as une chimiothérapie ou t'as besoin d'une thérapie très particulière qui doit être évacuée par le foie, qui doit être détoxifiée par ton foie, puis que ton foie, il est juste à la limite de fonctionner comme il faut, c'est là que tu vas te rendre compte que ça défonctionne, c'est une mauvaise expression, mais que ça peut t'handicaper pas mal.
On dit aussi que, tu dis que quand on prend trop de certains médicaments,
ben,
ça peut…
Entre autres, là, le Tylenol, c'est en quantité exagérée, là. Effectivement, il y a des gens qui prennent du Tylenol 2 comprimés 4 fois par jour à l'année, là. Ça se défait au foie, donc le foie peut être fatigué par ça, peut être… Ça va toujours, il est toujours en sur-travail. Il est toujours en temps supplémentaire, si tu veux. Mais tu ne peux pas faire du temps supplémentaire 365 jours par année.
Est-ce que, mais la beauté du foie, quand même, c'est qu'on dit aussi que contrairement aux autres organes vitaux, celui-là se régénère. C'est-à-dire que si on nous coupe un petit bout de foie…
Ça dépend de la quantité, ça dépend de la cause. Si tu fais un cancer du foie, oublie ça, ils vont pas te greffer.
C'est sûr.
Si tu fais une cirrhose du foie, ils vont te remplacer, tu sais, ils vont essayer de te remplacer par un lobe.
Mais est-ce que c'est vrai, ça, que ça se… Comment ça marche, là, dis-moi? Est-ce que ça repousse? Est-ce que c'est…
C'est mauvais exemple, ça repousse pas au complet, là.
Non, c'est clair, là.
Non, mais si on t'en enlève un petit bout, oui, tu peux avoir une régénération. Il y a plusieurs organes qui peuvent compenser. Si je t'enlève un rein, ton deuxième rein va devenir compensatoire.
Ouais.
En général, tu vas avoir une bonne compensation. Donc, le foie va te donner une compensation correcte, mais tu n'auras pas un super foie.
C'est ça.
Il va falloir que tu le ménages pareil, puis on va te suggérer de ne pas trop prendre d'alcool par-dessus.
Oui, c'est ça.
Tu ne fais pas exprès, là.
Exactement. Tu parlais de détoxifier. Il y a certaines personnes qui pensent que tout ce qui est cure pour détoxifier le foie, est-ce que tu es d'accord avec
ça? C'est vrai?
Mais c'est vrai le concept de dire ton foie peut être intoxiqué, il y a des toxines dedans.
Le foie est prévu de temps en temps,
le détoxifier, ça ne fait pas de mal.
Mais c'est parce que tu ne le détoxifies pas aux bonnes affaires. Si, par exemple, il est intoxiqué au plomb, ça va faire quoi? Quand même que tu boirais du jus de carotte toute ta vie, ça n'enlèvera pas le plomb qu'il y a dedans, ça n'enlèvera pas le mercure si tu en as en accumulation, ça n'enlèvera pas les substances toxiques dont on a eu l'évidence que tu avais dans ton sang en quantité trop grande.
Ouais.
Alors, il est intoxiqué avec quoi? Ben, la seule détoxification que tu peux faire, à la limite, on va appeler ça entre guillemets, double guillemets, c'est si, tu, par exemple, tu as une diète genre Weight Watchers. Moi, j'ai un patient qui avait à un moment donné, ben en fait, le frère d'un patient qui avait une obésité assez… Mais tu sais, c'était une espèce d'armoire à glace.
Mais c'était morbide, là?
Il était pas… Non? C'était un gars qui est toujours dans les restaurants, son frère. Moi, j'ai le frère comme patient qui me raconte. Mais il me dit, mon frère, il a perdu 60 livres avec Weight Watchers. Il s'est mis à faire… Il a pris ça sur 7 mois. Il a fait de l'exercice, mais genre, il est allé marcher, il est allé faire les petits exercices de parc. Il a perdu son 60 livres. Il est passé de stéatose sévère par le gastro-entérologue à « Monsieur, vous venez ici, pourquoi? »
Ah, donc il s'est comme guéri.
C'est parce que la bonne nouvelle, Isabelle, c'est que c'est réversible.
C'est ça.
C'est réversible.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que la personne est capable. Et tu as besoin de perdre 5 à 10 % de ton poids pour voir une différence au niveau de ton tour de taille.
Mais, Dr. Laberge, est-ce que toutes les personnes qui ont de l'embonpoint ont forcément un foie gras?
Non. Non, pas nécessairement. Ça augmente ton facteur de risque, mais il y a aussi ton facteur familial, il y a aussi d'autres facteurs. multipliée. Puis à ce moment-là, c'est sûr que tu peux avoir des facteurs de risque personnels qui vont faire. Un peu comme l'hypertension. Tu peux être obèse pour avoir faire de l'hypotension.
Ouais.
Tu sais, t'as pas tous les mots parce que t'es. Ouais, ouais, pas parce que t'es obèse. T'as ta vulnérabilité.
Ouais. On va s'arrêter ici. Le docteur Laberge reste avec nous. Bien sûr, vous avez des questions sur votre foi, ma foi, c'est le cas de le dire, vous pouvez les poser au 514-790-9850. Sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. C'est intéressant de savoir, pensez-vous que vous avez peut-être un petit foie gras?
Comment vous allez le savoir?
Oui, c'est ça. Voilà, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez nous dire également si vous avez déjà eu des problèmes de foie, stade cirrhose. Il y a plusieurs niveaux, hein, évidemment, le cancer.
Léger, modéré, sévère, voilà. On va revenir là-dessus.
Et on va vous donner tout de suite après la pause également avec la Doc Laberge. On va vous dire quels sont les aliments que vous aurez intérêt à favoriser dans votre diète et quelques de petits trucs d'ailleurs pour essayer de s'aider un petit peu. À tout de suite, tout le monde. On a bien sûr le docteur Christiane Laberge avec nous et on parle, qui est médecin de famille, vous le savez, on parle de foie gras. En fait, c'est tous ces problèmes reliés aux maladies hépatiques, c'est-à-dire par exemple la stéatose hépatique, celle qui est justement de souffrir d'un foie gras.
Ouais.
Puis à l'époque, justement à cette époque-ci, les fêtes s'en viennent, on va manger allègrement, on va trop boire un peu trop boire. Donc, faut être conscient de ça, Christiane, c'est sûr.
Oui, mais ça donne pas nécessairement des symptômes, mais c'est ça qui est vicieux.
Voilà.
C'est que quand on prend certains médicaments, le médecin va faire certaines prises de sang. On va dire, oups, vos enzymes sont un peu augmentées. Oups! Et là, on peut faire un écho puis dire, attention, vous avez un foie gras. Et quand on dit ça à quelqu'un, on dit, hey, c'est comme ton fanion rouge, là. Réveille!
C'est ça.
Parce que là, t'as déjà du gras dans ton foie.
Ouais. On a Dominique avec nous. Bonjour, Dominique.
Bonjour.
Bonjour. Bon matin, Mme Maréchal, et bonjour, docteur. Moi, ma question était, évidemment, là, à l'aube de mes 42 ans, j'ai une petite bédaine de bière, mais que j'ai perdu du poids à cause de mes antidépresseurs.
Mm-hmm.
Et j'ai fait passer, prises de sang.
Ouais.
Et j'aurais aimé en savoir plus à cet effet-là, parce que je prends du sertraline et du vivance.
Ah, OK. Bêtement, je vous dirais que votre vivance va compenser l'appétit augmenté de la sertraline, parce que souvent, le vivance va couper l'appétit.
C'est ça, il dit qu'il a perdu du
poids,
j'ai bien
compris. Alors, un dans l'autre, vous allez maintenir votre poids plutôt bas. Mais la diète qui a prouvé son efficacité, c'est la diète méditerranéenne plus l'exercice. Et si vous voulez savoir, ça dépend de votre âge, vous en discutez avec votre médecin.
Ouais.
Et vous pouvez lui demander, dire, moi, dans ma famille, il y a des gens qui ont un foie gras puis qui sont pas si obèses, sont pas en obésité morbide. Donc, peut-être faire le test pour voir si moi, j'ai le foie gras. Puis, surveillez votre tour de taille. C'est votre tour de taille parce que le poids comme tel, c'est pas un critère. Mais c'est surtout le tour de taille.
C'est le tour de taille. Le tour de taille en est un critère quand
c'est
même.
C'est le premier critère gras intra-abdominal.
Voilà. Donc c'est important de savoir ça.
Ouais.
Ouais. On a Carole qui est avec nous. Bonjour Carole. Je pense que votre frère est mort d'une cirrhose.
Oui. Moi, mon frère est décédé d'une cirrhose du foie, mais ça s'est fait tellement vite, là.
Ouais.
Et il avait, moi en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Il y avait des varices œsophagiennes.
Qui était le symptôme de son hépatite, sa cirrhose déjà là.
Oui, exactement. Et puis, je vous dirais, là, il avait été diagnostiqué varice œsophagienne en octobre.
Mm-hmm.
En juin, j'ai commencé à l'emmener à l'hôpital régulièrement parce qu'il faisait de l'acide.
Oui, ça, c'est de l'eau dans le ventre.
Alors, on allait lui chercher peut-être 9 à 10 litres.
Ouais,
d'acide à toutes les fois. En deux semaines, là, ça pouvait se produire.
Ouais.
Et puis, je vous dirais là, que sa maladie a progressé de juin à... Il est décédé au mois de novembre. De juin à novembre, là, ça s'est fait tellement vite. Là,
c'est particulier. C'est
parce que quand il est rendu là, ça fait déjà des années que le processus inflammatoire est en branle. On calcule 10-15 ans facile d'inflammation en général, là, à moins que ça soit une hépatite toxique puis que ça dégrade beaucoup. Mais c'est une maladie chronique et c'est quelque chose qu'il faut voir venir. Parce que quand on est rendu à avoir des varices, ça veut dire que notre veine qui draine
ça veut dire dans l'œsophage.
Ça veut dire que notre système draine mal. Quand on a de l'acide, ça veut dire que notre foie, ça fait longtemps qu'il ne fait plus d'albumine. Il est bloqué, en plus. Les vaisseaux sont bloqués. Qu'est-ce qui arrive quand tu as un tuyau de bloqué? Ben, ça va refouler dans la cave, hein? Mm. Puis ça va refouler un peu partout. Puis cette eau-là, ça s'en va dans le ventre, ça s'en va dans les jambes.
Mais ça vient de quoi, ce genre de...
Ben, c'est le foie, c'est de l'insuffisance de foie.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais.
C'est ça qui cause les problèmes que votre frère a eu, dont il s'est rendu compte. Mm. Mais la maladie était là avant.
Oui, effectivement. Suzanne, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux. Une hépatite auto-immune, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui cause ça?
Ah, auto-immune, ça veut dire que c'est une autodestruction du foie.
Oui,
et
oui.
À ce moment-là, c'est souvent les gens, les rhumatologues avec les gastro-entérologues qui vont travailler ensemble. C'est pourquoi vous détruisez votre foie, on ne le sait pas. Il y a un mécanisme. Je vous dirais, mauvais exemple, les gens qui font de l'arthrite rhumatoïde, qui détruisent leurs articulations. Il y a des gens qui vont détruire, au lieu de détruire l'articulation, ils vont détruire leur foie.
C'est le corps qui réagit à quelque chose, on ne sait pas trop quoi.
On ne sait pas quoi, on ne sait pas si c'est un virus qui l'a démarré. Pourquoi votre système s'est mis à être méchant envers lui-même plutôt que d'être méchant envers les virus et les bactéries qui nous entourent et même contre le cancer qui nous entoure. Il s'est mis à s'auto-détruire et je vous avoue qu'on ne connaît pas la cause. On fait du contrôle de dommages actuellement, mais la cause n'est pas connue.
On dirait qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les maladies auto-immunes, c'est toute maladie qu'on comprend pas. On dit que c'est possible que ce soit une maladie auto-immune.
Non, on dit idiopathique. Idiopathique, ça veut dire que l'idiote que je suis, je sais pas pourquoi.
C'est rare qu'un médecin va dire ça.
Ben, idiopathique, ça veut dire qu'on ne sait pas la cause, ça, c'est vraiment...
Mais auto-immune, est-ce qu'il y en a plus ou... rêves-tu? Moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus.
Autrefois, on mourait à 50 ans de la pneumonie. Tu comprends qu'on n'avait pas le temps de développer ces affaires-là.
C'est vrai.
Et on n'avait pas le temps de connaître ces affaires-là. Donc, plus t'en connais, plus t'as des affaires qui sortent.
Ouais. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour. Oui, c'est Marie-Christelle, bonjour. En fait, je voulais savoir ce que la médecin pense de l'alimentation anti-inflammatoire parce que j'ai fait récemment un défi. J'ai pas de problème de foie ni de problème de poids pour l'instant, ni rien. Mais c'est un défi de 30 jours qu'on coupe tous les allergènes comme arachides, gluten, produits laitiers, etc. Mais qu'on coupe aussi l'alcool, la caféine, tout ce qui peut rendre dépendant. Puis, ils appellent ça une alimentation anti-inflammatoire. Puis, le but, c'est vraiment, tu sais, vous disiez, vous croyez pas au détox, mais c'est de remettre un peu notre système à neuf. Ouais. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
C'est pas une question de croyance, hein. C'est une question que, actuellement, on n'a pas de données comme quoi le système anti-inflammatoire est anti-inflammatoire, sauf qu'il est hypocalorique, parce qu'enlever le gluten, enlever tout ce qui est pâte, enlever tout ce qui est pain, enlever tout ce qui est, en fait, vous mangez des fruits, des légumes, des produits céréaliers composés, etc., etc. Donc, souvent, les gens, quand ils font la diète, tu sais, toute diète au début, souvent, les gens vont perdre un petit peu de poids, ils vont se sentir bien, ils vont, tu sais, parce qu'ils boivent aussi leurs 6 verres d'eau qu'ils n'ont pas toujours le temps de boire dans le jour. Ils font plus attention à leur alimentation, ils vont aller marcher un peu plus. Donc, les gens se sentent plus légers, c'est vrai. Mais se sentir et avoir une amélioration à long terme au niveau inflammatoire, pas sûr. Et c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas de raison d'enlever le gluten chez quelqu'un qui n'est pas intolérant au gluten ou qui n'a pas de maladie cœliaque.
Écoute, puis je sais que les médecins pensent ça, puis vous avez le droit, là. Mais je pense aussi qu'il y a plein de gens, Christiane, qui ont testé.
Il y a des gens qui testent tout.
Non, mais je veux dire, qui ont testé, puis moi, je peux t'en parler parce que je l'ai fait.
Mais la diète Montignac, les gens qui ont testé ça a été extraordinaire, fantastique.
Mais sur le régime anti-inflammatoire, il y a des choses dont on sait dans l'alimentation, dans la façon dont les aliments sont faits. Tu sais, l'industrialisation de la nourriture.
Quelqu'un qui prendrait simplement un régime bio. Sans être nécessairement anti-inflammatoire, pourrait probablement avoir des choses qui soient semblables.
Écoute, moi, je l'ai fait. Depuis un an et demi, j'essaie de manger moins de gluten. Sincèrement, moi, j'avais des problèmes, entre autres, de maux de ventre épouvantables. J'avais des problèmes de maux de tête. Et j'ai lu tellement là-dessus. Il y a le FODMAP, il y a plein de régimes. Moi, je pense que modifier son aliment, croire que la bouffe qu'on mange a pas d'impact, moi, j'en reviens.
Non, c'est pas ce que je te dis. Non, c'est pas du tout ce que je te dis. Je te dis que la personne qui est intolérante au gluten, si elle peut le couper et qu'elle vit très bien avec ça, c'est parfait. Mais elle n'est pas obligée de couper les arachides.
C'est sûr.
Mais madame, c'est ça qu'elle parle. Oui, excuse-moi. L'anti-inflammatoire, il y a tout. Alors, c'est sûr que si tu manges de rien, tu vas frapper quelque chose là-dedans qui ne te convient pas. Mais il y a des gens, qui doivent arrêter le lactose parce que ça leur donne mal au ventre. Et on ne va pas dire que non, l'intolérance au lactose n'existe pas du tout. Mais par contre, de tout arrêter, pas sûr que c'est une diète anti-inflammatoire.
Mais d'abord, pour les diètes comme ça, on va suggérer d'enlever une chose à la fois pour savoir qu'est-ce qui vous nuit.
Merci.
Parce que si effectivement, si vous enlevez tout, là, vous pouvez plus savoir. T'sais, toute chose étant égale par ailleurs, t'enlèves un facteur potentiel de dérangement. Puis là,
est-ce que les pesticides peuvent te rendre irrité?
Les métaux dans l'eau, le plomb dans l'eau, penses-tu que c'est bon, le plomb dans l'eau?
Qu'est-ce que t'en penses?
Est-ce que tu penses que non?
Puis quand on vient nous dire qu'il n'y a pas d'enfant qui a fait de l'intoxication, c'est parce qu'il y a eu combien de recherches de plomb dans le sang des enfants? On en a cherché combien?
Ah, écoute, si à un moment donné, moi, c'est pour
ça
que
je suis d'accord avec toi, mais reste que, au niveau de dire que la diète est anti-inflammatoire parce que tu enlèves tout, non. Tu vas choisir une chose à la fois et tu vas te rendre compte que toi, ça ne convient pas.
C'est du jugement
anecdote,
dans tout.
Une anecdote n'est pas une statistique.
C'est sûr, c'est sûr. Mais là-dessus, il y a trop de médecins qui ont tendance à dire non, ça a zéro rapport. Moi, je l'ai entendu.
Mais non, mais c'est pas ça que je te dis.
Non, je sais que c'est pas ce que tu dis, toi.
C'est ça.
Je dis qu'il y a des médecins qui sont encore peu ouverts à ça. Il y a des pharmaciens.
Oui.
Il y a des pharmaciens, excusez, je voulais dire pharmaciens, qui sont opposés à ce genre de choses-là. Je veux dire, moi, après tout, je me dis, si ça, tu sais, si le chapeau de fée met-le, ça, c'est quasiment une de tes façons de parler, ça, Christiane, si le chapeau de fée met-le.
Exactement.
Mais ça veut dire, si ce régime-là te convient, j'ai envie de dire à Marie-Christelle, si vous vous rendez compte que ça vous va, vous, à vous, de couper le gluten,
exactement.
Ben coupez-le. T'sais.
C'est ça. Puis faites un mois sans gluten puis regardez ce que ça donne.
Exactement.
Mais de tout couper, c'est sûr que tu vas viser quelque chose.
Ouais. Une chose est sûre, c'est que de temps en temps, puis là, la mode est de plus en plus à ça. Se couper, faire un mois sans alcool, tu sais, le mois sec.
Le mois sans alcool.
Ça, c'est bon pour le foie. Ça nettoie un petit peu ton foie. Mais ça, disons que ça y donne un petit break.
Ça, c'est bon pour le foie, puis c'est... Oui, c'est ça. Toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait. Puis,
on est bien fiers de nous, tu sais.
Oui, parce que tu dis... Mais je trouve ça moins dur de prendre un mois sans alcool que de dire je prends deux verres. Dans une soirée...
Ah non, pas moi.
Oui, toi, t'as mal à la tête.
Non, ben oui, voilà. Moi, mon corps... Non, mais tu sais quoi, c'est vrai.
T'es rappelé à
l'ordre. Mon corps me le rappelle tout le temps. Ça fait trop mal le lendemain matin. J'ai pas de mérite. Mais je trouve ça dur, moi, pas boire pendant 30 jours.
Ah oui?
Oui.
Moi, je trouve que zéro, c'est plus facile que... un, deux, trois, en party, en souper, en ci, en ça.
Ah, peut-être qu'on pourrait voir. Est-ce que tu as une personnalité compulsive, peut-être? Non, t'es sûr?
Non, mais sauf que j'ai aucune maudite intolérance. Un cheval avec les fèbres, ça passe. T'sais, j'ai aucun problème.
Ah, c'est
digestif,
vrai?
Mal de tête. Hein. Non, je te jure. T'sais, c'est...
T'es tough.
Oui, je fais de tough.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Il en faut. Puis les plus fragiles que nous sommes. Merci beaucoup, docteur Laberge.
Bonne journée.
Pas si ça vous tente de faire un mois sans alcool avant Noël. On pourrait parler de ça.
On pourrait parler de ça le 6 janvier, peut-être.
Oui, peut-être le 6 janvier. Non, mais tu te fais une pause pour pouvoir mieux. Tu sais, tu recules de deux pas pour mieux sauter.
Ouf.
Regarde, on essaye des affaires. Tout de suite après la pause, vous savez qui est là? Nous avons Pierre Hébert, humoriste, animateur en entrevue sans filtre. Restez là, tout le monde.